Quand on parle de l'hypersensibilité, pour moi, il est primordial de bien comprendre ce qu'est l'hyperstimulation. Parce que l'hypersensibilité entraîne ce qu'on appelle l'hyperstimulation. L'hyperstimulation, ça veut dire surexcitation. En fait, c'est quand ton système nerveux va réagir plus fortement à tout ce qui peut l'éveiller et attirer son attention, c'est-à-dire qu'il est en alerte. Quand on est hypersensible, on a des ressentis plus intenses. Ton corps va être en surréaction. Tes émotions vont déborder. Ton mental va tout analyser, va suranalyser et il va être envahissant. Donc, hyperstimulation, c'est être hyperstimulé, surexcité, submergé, épuisé, dans un état de confusion, etc. etc. En fait, c'est comme si tout ton système allait beaucoup plus vite que la normale. Donc du coup, oui, c'est épuisant. Donc du coup, ton corps, il va surréagir en permanence. Il va t'envoyer des signaux, il va te parler, il va réagir très très vite à des stimuli externes ou des stimuli internes, etc. etc. Donc l'hyperstimulation est vraiment un terme à bien comprendre, c'est un concept à vraiment intégrer quand on est hypersensible et quand on parle d'hypersensibilité. Parce que parler d'hypersensibilité sans comprendre ce qu'est l'hyperstimulation, il y a, je dirais, une base, la base pour moi, que tu ne prends pas en compte. Donc en fait, tu vas commencer à élaguer, par exemple, dire « je veux comprendre mes émotions ». Mais si tu n'as pas compris qu'il y a des stimuli internes et externes qui vont provoquer de l'hyperstimulation et les émotions ne peuvent être en partie qu'une conséquence de cette hyperstimulation, tu auras beau faire tout ce que tu veux pour mettre en place des choses sur tes émotions, au niveau de la base, il y aura quelque chose qui n'a pas été ni stabilisé, ni compris. Donc vraiment, l'hyperstimulation est vraiment importante à mettre en place. Alors, on va aller un petit peu plus en profondeur dans ce concept d'hyperstimulation. Et comment est-ce que tu deviens hyperstimulé? Alors, il y a déjà au niveau physiologique. Physiologique, déjà au niveau de tes sens. Que ce soit au niveau de l'ouïe. Ça peut être un bruit strident. Ça peut être un bruit répétitif. Un bruit sourd. Même un bruit de bouche quand quelqu'un mâche un chewing-gum ou quand quelqu'un mange. C'est quelque chose qui peut vraiment t'agacer. Alors, au-delà du fait que ça t'agace, pense bien que l'hyperstimulation, c'est aussi la superposition de tous ces stimuli. Donc ça peut être un bruit de bouche, ça peut être un autre stimuli, par un autre, par un autre, par un autre, par un autre, par un autre. Et finalement, tout finit par déborder parce qu'il y a trop de réactions, parce qu'il y a trop de surstimulation, parce qu'il y a trop d'hyperstimulation. Au niveau physiologique également, il va y avoir au niveau d'un autre sens qui est l'odorat. Ça peut être une odeur forte, comme un parfum trop fort, comme un adoucissant ou une lessive. Ça peut être une odeur synthétique, par exemple un parfum d'ambiance qui peut être vraiment prenant, on va dire. Ça peut provoquer des nausées, ça peut provoquer des étourdissements, ça peut mettre mal à l'aise, etc. Il y a aussi l'odeur du tabac, par exemple. Toutes ces odeurs-là, en fait, c'est comme si tes sens étaient hyper réactifs, hyper capteurs. Donc, du coup, tu vas sentir de manière beaucoup plus subtile les odeurs, si on parle de l'odorat. Mais au niveau de l'ouïe, tu vas entendre des choses, des bruits que certaines personnes n'entendent pas. Ou tu vas entendre des bruits beaucoup plus loin. Ils vont dire « Bon, mais t'as entendu ça ?» Oui, j'ai entendu ça. Ensuite, au niveau du toucher, ça peut être la texture d'un vêtement. Un soutien-gorge qui va serrer une poitrine, par exemple. Donc du coup, rien que ça, ça rajoute encore des choses au niveau de l'hyperstimulation. Des vêtements qui sont trop serrés, un jean qui est un peu trop serré, ou si tu as trop chaud dans tes vêtements, ou si tu as un peu froid, ou si la matière, tu ne te sens pas bien dedans, tu te sens un peu engoncé, ou ça gratte, ou ça pique, ou au contraire, tu es trop dénudé. Ou alors, ben, après, ça c'est au niveau de ta peau en direct. Ça peut être également ce que tu veux mettre sur ta peau. Donc, ça peut être des crèmes, des choses qui, une crème un petit peu collante par exemple, qui peut amener un côté un peu poisseux au niveau de la peau. Ben, ça peut, tu ne te rends peut-être pas compte, mais si tu n'es pas à l'aise avec ça, ça va te déranger, ça va rajouter un stimuli par rapport à l'hyperstimulation. Ça peut être également des gens qui vont te faire la bise alors que tu ne les connais pas et c'est quelque chose qui te met mal à l'aise. Ou des gens qui vont être très tactiles, qui vont tout le temps te prendre par la taille ou te toucher l'épaule. Ou voilà. Si toi, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais ça rajoute quelque chose, ça rajoute de l'hyperstimulation. Au niveau de la vue maintenant, ça peut être des lumières comme les lumières de néon dans un supermarché par exemple. Parce qu'il faut savoir que dans les néons, la lumière quand on la regarde, elle est continue. Mais si on ralentit un petit peu le temps, la lumière des néons fait comme des flashs. Donc peut-être que quand tu regardes, c'est quelque chose qui ne te gêne pas comme ça en regardant. Mais toi, au niveau de ton système nerveux va capter les flashs. Donc ça va faire pa 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 pa. Toi, tu peux voir en continu, mais par exemple, clairement pour les néons, c'est un type de lumière qui peut vraiment te fatiguer et t'épuiser. Il peut y avoir aussi la densité visuelle. Si tu te projettes dans un supermarché, en période de fête par exemple, tu rentres dans ce supermarché, tu rentres dans l'allée centrale et là, tu vois cette montagne de produits, les gens qui s'agitent dans tous les sens. Donc il y a aussi beaucoup de mouvements. Il y a aussi toute la publicité qui est affichée dans toutes les allées, avec les promos, avec les offres spéciales, etc. Le supermarché est vraiment un lieu, je t'invite vraiment à voir le supermarché comme un lieu de jeu, d'expérimentation, pour aller voir ce qui, toi, va te mettre en hyperstimulation. Les informations que je te donne maintenant, ça ne veut pas dire que tu les as toutes, mais ça peut être aussi par période de ta vie. Mais c'est important d'en prendre conscience et de savoir aujourd'hui par quoi tu es hyper stimulé. Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est l'ouïe? Est-ce que c'est le toucher? Etc. Il y a également le goût. Le goût, ça peut être des textures au niveau de l'aliment, des aliments qui peuvent être très dérangeants. Ça peut être une forte sensibilité aux épices, aux choses qui sont un petit peu fortes. Sentir par exemple du poivre dans un plat alors qu'on n'en a mis que très très peu. Les enfants sont souvent très sensibles à ça, les enfants hypersensibles. Un goût trop sucré ou un goût trop fort, etc. Même au niveau des boissons, des choses qui peuvent être avec des bulles ou quelque chose d'un petit peu plus liquoreux ou voilà. Il faut vraiment que tu vois ça comme une exploration. Qu'est-ce qui, chez toi, aujourd'hui, peut-être te déranger? Prendre conscience de tout ça, de ton environnement, et ensuite poser des actions. Ça, c'est ce qu'on verra après. Au niveau physiologique, donc on vient de voir les cinq sens, mais il y a également ce qu'on peut appeler le côté statique. Le côté statique, c'est quand ça bouge. Par exemple, si tu es malade en voiture, si tu n'aimes pas spécialement les manèges, les choses qui vont vite, si le fait de la vitesse en voiture ou en moto, etc., si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, c'est pour ça que moi, quand je reçois des clients en coaching ou même dans mes programmes, il y a des gens qui me disent bah, j'ai du mal à passer mon permis, par exemple, ou je ne me sens pas à l'aise en voiture. Ben oui, parce qu'en fait, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'informations. La voiture est en mouvement, il y a aussi les autres voitures qui bougent, donc ça rajoute encore plus de mouvement, encore plus de vitesse. Il y a également le paysage qui défile, il y a peut-être les odeurs des pots d'échappement, il y a peut-être la musique dans la voiture si on n'en a pas conscience, il y a peut-être les enfants qui parlent à l'arrière. La notion du temps aussi, il faut que je gère le temps, etc., etc. Et à chaque fois, tout ça, ça fait des informations supplémentaires à gérer. Donc au niveau statique, ça peut être, c'est le fait vraiment d'être en mouvement. Donc ça peut être la crainte des activités où les deux pieds ne sont pas sur le sol, comme effectivement de prendre sa voiture, d'aller vite, ça peut être les manèges, ça peut être également quelque chose de beaucoup plus simple, ça peut être comme de monter sur une échelle. Là, on perd, un peu comme si on perd des pieds. Mon fils, juste pour te raconter une anecdote, mon fils, quand il était petit, il avait l'âge de 5-6 ans, était en admiration devant les manèges quand on allait à la fête foraine. Toujours, il avait toujours envie de monter dans les manèges. Évidemment, hein, comme tout enfant, ben, il voit les autres s'amuser, il voit les autres rire, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Je savais qu'en montant dans le manège, dans les 2 secondes qui allaient arriver, dans les 2 secondes après le début du manège, je savais que j'allais devoir arrêter le manège. Je savais, ça faisait partie de mon rôle de maman d'enfant hypersensible. Et j'ai toujours respecté, en fait, ces ressentis. Donc, on y allait. Je payais le tour de manège. Il s'installait dans le manège. Manège pour son âge, voilà, qui n'allait pas forcément très vite. Mais pour lui, c'était difficile. Mais il y allait, il avait très envie. Et au bout de 2 secondes, je devais arrêter le manège. Parce qu'il était en train de crier, les mains sur les oreilles, en train d'hurler, en pleurs, etc. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est juste que moi, je le savais. Et du coup, j'avais juste envie qu'il expérimente, en fait. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, il a 11 ans. Ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, petit, je l'ai laissé aussi expérimenter les choses. Et je l'ai accompagné là-dedans tout en respectant, en fait, ses ressentis et qui il pouvait être. Au niveau des stimuli physiologiques, tu vas également avoir la sensation de faim ou de soif. C'est tout bête. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître très banal pour les uns ou pour les autres. Mais pour nous, quand on a soif, ça peut devenir hyper envahissant. Quand on a faim, ça peut devenir hyper déstabilisant. Donc, je te conseille vraiment, quand tu sors, que ce soit pour une demi-heure de trajet, d'avoir toujours avec toi une gourde en inox de préférence. Comme ça, on contribue, on fait une bonne action pour la planète. On n'est pas du tout dans du jetable. Je te conseille vraiment d'avoir ça toujours sous la main. Une gourde, c'est tout bête, c'est tout simple. Et ça dans ta voiture, et ça dans ton sac, quand tu pars quelque part. Et d'avoir peut-être soit une petite poignée d'amandes ou une barre de céréales ou un petit carré de chocolat. Les petits carrés qu'on donne quand on prend un café ou ce genre de choses. C'est tout bête, mais ça, c'est un petit peu ta trousse de secours, c'est un petit peu ton guide de survie, où quand tu vas avoir ça avec toi, tu sais que ce stimuli-là, tu pourras le gérer. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple après pour gérer les autres. Il y a également la fatigue. Alors la fatigue... Là, je t'invite vraiment à aller voir la qualité de ton sommeil. La qualité et la quantité. Est-ce que tu connais ton cycle de sommeil? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu arrives à te créer un moment de mise en relaxation, de détente, juste avant d'aller t'endormir pour favoriser un bon sommeil? Voilà, ça c'est important. La fatigue peut venir aussi d'une surcharge mentale, peut venir aussi d'une mauvaise alimentation, peut venir aussi d'un manque de sport, etc. Il y a plein de choses, mais tu peux aussi poser ton attention à un moment donné sur la fatigue. Comment je me sens? Est-ce que je suis fatiguée? De quoi est-ce que mon corps a besoin? Est-ce que j'ai besoin peut-être de faire plus de sport pour avoir une fatigue plutôt physique que plutôt nerveuse? Est-ce que j'ai besoin de dormir plus? Donc si c'est le cas, ce soir, je vais essayer de m'endormir une heure plus tôt, etc., etc. C'est à toi, encore une fois, d'aller expérimenter. Parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Ce que moi, je te partage aujourd'hui, ce sont mes compréhensions, ce que moi, j'ai mis en place. Je te partage certaines de mes astuces, certains de mes conseils, certaines choses que j'ai pu mettre en place et qui font maintenant pleinement partie de ma vie au quotidien. Mais... Évidemment, inspire-toi de ce que je te partage, applique-les, expérimente-les, mais tu as ton libre arbitre. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te convient? C'est vraiment hyper important que tu développes en même temps cette capacité à t'écouter et à ressentir vraiment ce qui te correspond à toi. Ce qui me correspond à moi et peut-être à la plupart des gens ne va peut-être pas te correspondre à toi. Donc, sois honnête avec toi, utilise ton libre arbitre et va plonge à l'intérieur de toi pour aller voir ce qui est bon pour toi. Évidemment, tous ces stimuli physiologiques qu'on vient de voir, que ce soit les cinq sens, les stimuli statiques, la sensation de faim et de soif, la fatigue, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer une surcharge émotionnelle, une surcharge mentale. Ça peut provoquer des allergies, ça peut provoquer des agacements, de la colère, de la tristesse, des nausées, des étourdissements, etc., etc. Il peut y avoir vraiment beaucoup de conséquences physiques, émotionnelles, même, je veux dire, mentales au niveau des pensées par rapport à tous ces stimuli physiologiques. Ensuite, on peut parler des stimuli, ce que je pourrais appeler émotionnels. Les stimuli émotionnels, c'est ce qui va provoquer en fait une émotion directe chez toi. Ça peut être l'humeur de quelqu'un. Quelqu'un vient te voir parce qu'il sait que ben, à tes côtés, il va avoir une bonne écoute, tu ne vas pas le juger, tu vas l'accueillir. Parce que ben, ça fait partie de nos qualités, notre empathie et notre capacité à être bienveillant. Ça ne veut pas dire que tous les hypersensibles le sont, mais en tout cas, ça fait partie de nos qualités. Et la personne sait que à tes côtés, elle va avoir une bonne écoute, elle va avoir un bon accueil. Donc elle vient et là, elle te raconte ses problèmes. Elle te raconte que c'est difficile. Elle te raconte ses difficultés au travail, dans sa relation de couple. Elle te raconte que le monde est pourri, que les gens ne sont plus respectueux de rien et que le monde est en train de partir vraiment à la dérive et que c'est horrible, etc. D'après toi, quand tu passes un quart d'heure, une demi-heure, une heure avec une personne comme ça, qui a peut-être une tendance un peu négative, une tendance à être victime, etc., comment tu vas te sentir? Forcément, tu ne peux pas te sentir bien. Ça fait partie des stimuli émotionnels. Et là, c'est à toi de poser tes limites, de poser ton cadre. Donc, l'humeur des autres. Mais même si tu croises quelqu'un dans une soirée, et qui à côté raconte quelque chose, pas forcément directement à toi, mais qui a un sujet de conversation, et que ce sujet de conversation évoque un souvenir, ou que la musique qui passe dans cette soirée évoque un souvenir, rien que ça, avec le mental hyperactif qu'on peut avoir et notre grande capacité d'imagination, on part très très vite sur un petit stimuli, sur un petit déclencheur. Donc ce petit déclencheur qui, chez les autres, ben, la plupart des gens ne vont même pas y faire attention, nous, non seulement on l'a entendu, on l'a capté, mais ça y est, notre mental est parti. Et là, on revit un ancien souvenir qui peut être soit positif, soit négatif, peu importe, mais en tout cas, on quitte le moment présent pour repartir dans le passé et réexpérimenter une émotion, la revivre, la faire ressurgir. Il y a également les informations à la télé, à la radio, il y a également ce que tu lis, comment tu nourris ton esprit, comment tu nourris tes émotions. Être en permanence baigné d'informations négatives, d'informations stressantes, d'informations anxiogènes, ne peut pas contribuer à un bon équilibre, à ton bon équilibre, au niveau émotionnel et au niveau psychique, et ne peut pas diminuer ton stress. Ce n'est pas possible. Et sachant qu'en plus, comme tu es hypersensible, tu es beaucoup plus sensible du coup à l'influence de ces informations et de tout ce qu'il peut y avoir autour de toi. Donc vraiment, prends le temps aussi de regarder comment tu te nourris, comment tu nourris ton esprit et tes émotions. Et essaye de corriger un petit peu chaque jour déjà comment tu te nourris. Aussi bien prendre soin de son corps que prendre soin de ses émotions. Et puis, il y a également l'énergie d'un lieu ou d'une personne. Alors, ça pourra peut-être te sembler un peu subtil, un peu abstrait, si c'est quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté. Mais les personnes hypersensibles vont capter l'énergie d'un lieu ou l'énergie d'une personne. Que tu vives dans un lieu en ville ou à la campagne, tu ne vas pas avoir la même énergie. que tu vives dans tel pays ou dans tel autre pays, suivant la culture, suivant les rites de la population, suivant le rythme de vie des gens, suivant les croyances, suivant les religions, etc., il ne va pas y avoir la même ambiance dans le pays. Nous, on est très sensibles à ça. Quand tu rentres dans un lieu saint, par exemple, ou quand tu rentres dans un bar, tu n'as pas la même énergie. C'est quelque chose qui va t'impacter énormément. Des gens qui vont passer dessus, qui ne vont même pas voir, ça va pas les affecter. Nous, ça nous affecte. Donc je t'invite aussi à prendre conscience de ça. Et également l'énergie d'une personne, c'est la même chose. Voilà, donc là c'était pour les stimuli émotionnels. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça peut provoquer un sentiment d'oppression, un mal-être. Une lourdeur au niveau du plexus solaire, on a du mal à respirer ou on a un blocage au niveau du plexus. Le plexus, c'est la zone qui est au niveau de ton diaphragme, entre l'intersection de tes côtes, vraiment juste sous ta poitrine. On peut se sentir mal, épuisé, vidé, agacé, anxieux, en colère, etc. Et des fois, ça nous tombe dessus, on ne sait même pas pourquoi. Ça surgit comme ça. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je me sens agacée. Pourquoi je me sens fatiguée, vidée. Parce qu'à un moment donné, tu es en hyperstimulation entre le côté physiologique, entre le côté émotionnel, et on n'a pas fini, il y en a encore derrière. Tu vas donc être en hyperstimulation. On rajoute par-dessus le côté énergétique, où il y a des gens qui viennent se nourrir au niveau énergétique de ton énergie, comme nous on peut le faire aussi, comme toi tu peux le faire, comme moi je peux le faire, si on n'en a pas conscience. Et du coup, tout ça, ça fait que on est complètement vidé. Comment on devient hyper stimulé? J'aimerais maintenant te parler des changements et du temps, la notion du temps. C'est que des choses, tu n'as peut-être pas forcément conscience de ça, mais on a un rapport au temps qui est aussi particulier, et on a un rapport au changement qui est aussi particulier. Les imprévus, c'est quelque chose, je ne dis pas que c'est forcément le cas chez toi, mais c'est quelque chose qui peut être anxiogène, qui peut être générateur de stress, qui peut te mettre mal à l'aise, un imprévu. Parce que je t'invite vraiment à écouter ce que je vais dire et à prendre 5 minutes pour voir si tu fais la même chose, mais tu as prévu de sortir avec un ami, par exemple. Il te dit, oui, viens. Est-ce que ça te dit d'aller faire une marche en forêt? Ok, super. Donc toi, inconsciemment, encore une fois, tu t'es préparé à faire ta marche en forêt avec ton ami. Super, donc tu t'imagines en train de marcher. Mais tout ça, c'est inconscient. Tu n'en as pas forcément conscience. Donc tu as préparé ton petit sac de rando, tu t'es habillé en conséquence, etc. Et là, tu arrives et tu te rends compte que ton ami est là, mais qu'il a ramené sa mère, sa tante, son frère et ses enfants, et ses neveux-nièces, donc les enfants de son frère. Donc finalement, d'une balade où tu étais toi et ton ami en forêt, tu passes à une balade où il y a cette famille, où ils sont 5 ou 6, et toi, forcément, tu ne vas pas du tout passer le même moment. Donc je t'invite vraiment à t'observer aussi dans ces moments-là. Comment tu réagis? Est-ce que tu es plutôt joyeux à l'idée de te dire « Ah super, il y a plein de gens, c'est cool, je vais pouvoir échanger, découvrir, rencontrer des gens, etc. » Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Et si ça te stresse, il n'y a pas de problème, c'est ok. Tu as le droit d'être stressé par ça, clairement. Là, tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, ce ne sont pas du tout des points où tu te dis « mince, je fais ça, il faut que je change ». Non, c'est « je fais ça, ok, je suis comme ça, ok ». Mon fonctionnement d'hypersensible est comme ça, ok. Qu'est-ce que je fais maintenant pour m'accompagner au mieux, pour prendre soin de moi au mieux, pour prendre soin de moi de mon fonctionnement de personne hypersensible, pour que ça devienne quelque chose de léger, d'agréable, de fluide, et de plaisant. Mais en aucun cas, je vais te demander de changer ton fonctionnement. Il y a des choses que tu seras peut-être amené à changer. Et parce qu'en fait, c'est des choses que tu as pu mettre en place parce que tu as eu peur de la réaction des autres, parce que tu as eu peur de t'affirmer, parce que tu as eu peur de prendre ta place, parce que tu n'as pas osé. Et là, du coup, c'est quelque chose qui comprime qui tu es. Alors que moi, je t'invite au contraire à complètement ouvrir et laisser pleinement ta nature d'hypersensible prendre sa place, d'oser être pleinement qui tu es. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Je reviens à les stimuli par rapport au changement et au temps. Donc ça peut être des imprévus, comme je viens de t'expliquer. Ça peut être un changement d'habitude ou d'environnement. Et là encore, ben, il y a des manières de s'adapter à ça, si c'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas agir. Et il y a également la pression par rapport au temps. Comment vis-tu le temps? Comment vis-tu les moments où on te dit « Allez, allez, dépêche-toi » Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui va être à l'heure, quelqu'un qui va être en retard? Est-ce que c'est quelque chose qui va te stresser? Est-ce que tu fais les choses à la dernière minute? Est-ce que tu anticipes? Bref, peu importe, mais comment vis-tu ton rapport au temps? Voilà, tu as donc, juste pour faire un récapitulatif rapide, au niveau de l'hypersimulation, tu as l'hypersimulation physiologique, émotionnelle et temporelle. C'est les trois grands axes, les trois grands domaines que tu peux garder en mémoire. Et du coup, prends conscience de tout ça et comment, quel impact ça a dans ta vie. Observe. Voilà, on vient de voir l'hypersensibilité, on vient de voir l'hyperstimulation. Et maintenant, je t'invite à faire un exercice. Donc, tu vas mettre pause et tu vas noter ce que tu peux maintenant identifier comme de l'hyperstimulation chez toi. Prends le temps de repenser à tout ce que je viens de dire, physiologique, émotionnel, temporel. Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu peux identifier? Évidemment, c'est une observation que tu vas pouvoir compléter au fur et à mesure. Ça va évoluer aussi au fur et à mesure que tu vas prendre conscience, tu vas aller de plus en plus en profondeur en toi, et tu vas prendre conscience de plus en plus de certaines choses. Donc évidemment, tu pourras y revenir. Donc laisse de la place, laisse ton cahier ouvert, laisse tes notes ouvertes pour pouvoir noter au fur et à mesure. Ah tiens, aujourd'hui j'ai vécu ça, je n'avais pas pris conscience que ça pouvait être une source d'hyperstimulation. Je le note. Ok, c'est ok, je le note. C'est tout. Sans jugement, sans remise en question, sans est-ce que c'est normal ou pas normal. Oui, c'est normal. C'est normal pour une personne hypersensible. C'est ok. Tu as le droit de ressentir ça. Et même si 75% des hypersensibles ne ressentent pas ça, toi, c'est ce que tu vis. Donc, à partir du moment où toi, tu le vis, c'est valable pour toi. C'est légitime pour toi. C'est normal pour toi. Je t'invite vraiment à ne pas remettre en cause ce que tu vois, entends, ressens. Juste, je te fais une parenthèse par rapport à ça. Ou par rapport à mon hypersensibilité, au bout d'un moment, j'ai commencé à capter des choses beaucoup plus subtiles, à avoir des capacités extrasensorielles, des capacités médiumniques, à entendre des voix, à pouvoir communiquer avec des âmes défuntes. Forcément, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu l'habitude de faire, des choses qui ne s'étaient jamais manifestées dans ma vie. Et je me suis dit, voilà, soit je ferme complètement la porte, soit je remets en doute tout ce que je ressens, mais si ça s'intensifie, ben je vais être mal parce que ben ça va vraiment m'envahir et je vais peut-être à un moment perdre la tête. Donc au bout d'un moment, j'ai passé un pacte avec moi-même et je me suis dit, Gaëlle, tout ce que tu vois, entends, ressens, perçois, sent au niveau de l'odorat, etc., est vrai pour moi. C'est ma vérité, c'est ma manière de percevoir le monde. Donc je t'invite vraiment à faire de même. Parce que dans l'hypersensibilité, il y a aussi ça. Il y a aussi cette part-là, cette part de tu captes des choses qui peuvent être très subtiles. Et je sais que c'est souvent difficile d'en parler, je sais que c'est souvent des choses qu'on a pu enfouir par peur, déjà parce qu'on ne connaît pas, par peur du regard des autres, par peur de ben, à qui je vais en parler? Si je commence à dire que je vois des âmes défuntes, ou que je les entends, ou je les sens, ou que j'arrive à faire des sorties de corps, ou que j'ai des capacités médiumniques, ou ce genre de choses, comment on va m'accueillir? Donc il y a beaucoup, beaucoup d'hypersensibles qui ont mis ça de côté. Inconsciemment ou consciemment, encore une fois, là n'est pas la question. Mais vraiment, tout ce que tu perçois, captes, ressens, vois, entends, etc., ça fait partie de toi. Et c'est des choses qui sont légitimes pour toi, qui sont normales pour toi. Ok ? Ça, c'est important. Donc, je reviens à l'exercice. Une fois que tu as pu noter et identifier ce qui pouvait chez toi te mettre en hyperstimulation, maintenant que tu as conscience de cette notion d'hyperstimulation et de l'impact que ça peut avoir dans ton quotidien, eh bien, tu vas pouvoir plus facilement identifier ces moments. Et du coup, au fur et à mesure que tes journées passent, voir comment tu peux prendre soin de cette partie de toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Je te donne un exemple. Moi, je suis particulièrement sensible au niveau de l'ouïe. Le bruit peut être quelque chose qui me fatigue, qui me plonge dans une confusion mentale, comme si mon mental en fait se coupait de mon corps parce que c'est trop fort, parce que c'est trop intense. Si en plus je vis dans ce moment-là des émotions fortes ou que la situation est un peu inconfortable pour moi, etc., je déconnecte tout de suite. Du coup, pour que ce soit plus facile pour moi de gérer ça et que j'ai de la disponibilité intérieure, que j'ai l'espace intérieur pour pouvoir accueillir tout ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre soin de ce qui est facile pour moi, c'est-à-dire l'ouïe, pour pouvoir gérer le reste. Comment je peux prendre soin de mon hyperstimulation au niveau de l'ouïe? Simplement avec des bouchons d'oreille. Quand j'en ai pas, je mets mes écouteurs de téléphone, ou les écouteurs de mon MP3, peu importe. Je mets pas de son à l'intérieur. Juste, je mets ça. Ça couvre un petit peu le son. Et au début, ben, on est un petit peu gêné de porter des bouchons d'oreilles. On se dit, mince, j'ai un truc bleu qui sort ou j'ai un truc vert qui sort des oreilles. Franchement, au bout d'un moment, les gens, ils s'en fichent, franchement. Faut pas que ça t'arrête. Donc, ça peut être ça au niveau de l'ouïe. Ça peut être au niveau des odeurs. Ça peut être un parfum que tu aimes bien dans ton sac ou un parfum ou une huile essentielle. Tu vois, que tu glisses sur une écharpe, que tu vas mettre sur le coin de ton col ou ce genre de choses. Pour que tu vois, tu puisses discrètement juste tourner la tête vers l'odeur. Et puis, voilà, ça, tu sais que ça te détend. Tu sais que c'est une odeur qui te réconforte. Tu sais que c'est une odeur que tu apprécies. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être également ne plus utiliser d'adoucissant. Moi, j'ai banni les lessives trop fortes au niveau des odeurs et les adoucissants. Ça peut être un parfum corporel qui est plus doux. Ça peut être plein de choses comme ça. Il y a plein de petites astuces dans ta journée, dans ton quotidien, que tu peux mettre en place. Je te disais tout à l'heure, le fait d'avoir de l'eau à portée de main, le fait d'avoir quelque chose à grignoter. Voilà, tout ça en fait, tout ce que tu vas mettre en place, qui peuvent peut-être te sembler complètement anodines, mais ces petites choses que tu vas mettre en place dans ton quotidien vont t'aider à mieux gérer ton hyperstimulation en général. Donc, quand tu vas apaiser l'ouïe, quand tu vas apaiser l'odorat, quand tu vas apaiser ta notion du temps, etc., etc., tu vas avoir plus de ressources, plus d'espace à l'intérieur pour gérer le reste. Donc, ça ne va pas tout le temps être des débordements émotionnels. Ça ne va pas tout le temps être des moments où tu te sens à fleur de peau. Parce que tu vas diminuer la tension, tu vas diminuer l'hyperstimulation. Tu vas diminuer le fait de te sentir en hyperstimulation. Tu vas diminuer la tension à l'intérieur de toi. Donc, ça va être beaucoup plus facile à gérer après. Voilà pour l'hyperstimulation, voilà pour l'exercice qu'on vient de voir.